le temps de passer la parole. Merci beaucoup, Laurence, pour cette présentation dont le sujet est le moins vivant et attrayant. Et je suis certaine que nous aurons beaucoup de, questions tout à l'heure. Mais sans transition pour l'instant, j'ai donc le plaisir, je crois que c'est la première fois que je le présente d'ailleurs, mais j'ai le plaisir de, présenter, de représenter, ou de ne pas présenter parce que tout le monde connaît mon collègue Jean Viviès, qui est donc professeur de littérature britannique ici même à l'université d'Aix-Marseille. Donc, que dire brièvement, parce qu'on pourrait être très long pour présenter Jean, mais brièvement, peut-être rappeler qu'il a dirigé notamment le LERMA, le laboratoire dont fait partie évidemment ce séminaire. Jean est un spécialiste de littérature britannique du XVIIIe siècle, notamment du roman et des récits de voyage, et il est le père fondateur de ce séminaire en 2002. Donc le séminaire de recherche 17-18 du LERMA qu'il a co-animé avec Laurence pendant nombreuses années et auquel je me suis relativement récemment ajoutée. Jean prépare actuellement une monographie sur Gulliver's Travels de Jonathan Swift, et au sein de ce séminaire en particulier, il s'occupe également d'un groupe de recherche de collègues anglicistes qui travaillent plus spécifiquement sur l'œuvre de Jonathan Swift. Donc, Jean, je te laisse la parole.
Merci. C'est un plaisir pour moi de vous parler au sein de ce séminaire. Donc c'est moins une communication que je vais vous proposer qu'une présentation en réalité d'une figure dont j'ai trouvé qu'elle pouvait trouver sa place dans ce séminaire. C'était à la fois un architecte et un dramaturge. Donc mon hypothèse de départ, et j'ai partiellement rempli le contrat, vous le verrez, que partiellement, c'est de me demander quel soubassement commun il pouvait y avoir entre ces deux carrières en apparence assez différentes. Celle d'un architecte et d'un dramaturge. Donc, quelques mots d'abord, vous avez son portrait là, c'est le portrait que l'on trouve à la National Portrait Gallery de John Vanbrugh. Sa vie n'est connue qu'imparfaitement avant son premier succès au théâtre, une pièce qui s'appelait The Relapse of Virtue in Danger, 1796. Son nom, Vanbrugh, ne sonne pas très anglais. En effet, la famille était de souche hollandaise. Son grand-père était natif de Gand, s'établit à Londres comme marchand au début du XVIIe siècle. Et son fils, donc le père de John, le fils du grand-père, Charles, eut 18 enfants, dont John Vanbrugh, né en 1663 ou 1664. Je ne sais pas. Fils cadet, 17 frères et sœurs, un fils aîné. Il embrasse une carrière classique à l'époque qui était celle d'un militaire. C'est assez confus ce qu'il a fait dans ses années de régiment, etc. On retrouve sa trace après. Il a été arrêté à Calais pour espionnage. Il aurait relevé, dit-on, les plans de la forteresse en 1690. Il a été transféré à la Bastille 10 mois sur ordre de Louis XIV. Il est resté du 30 janvier au 22 novembre. Et on dit qu'il avait ébauché là, j'y reviendrai, ça m'a intéressé évidemment, c'est là qu'il a ébauché à la Bastille le plan de sa pièce de Provoke Watt dont je vous parlerai dans un instant. On dit que c'est après avoir vu la pièce de Corliss Sebagh qui s'appelait Love's Last Shift en janvier 1696 qui qu'il resta sceptique sur le repentir du roué Loveless, un nom d'ailleurs que reprendra Richardson dans Clarissa, et qu'il décida d'écrire une suite, ne croyant pas en se repentir du roué, qu'il appellera The Relapse, dont je vous ai déjà parlé, sa première pièce en 1696. Ceux amateurs de dates et de repères, une chronologie qu'on peut distribuer peut-être, alors, il y a deux pages. Une page où à gauche il y a Renaissance Drama et l'autre William and Mary. D'accord. Donc le succès de cette pièce, qui était la continuation d'une pièce existante, fut retentissant. Il adapta ensuite des fables d'Ésope, et puis en mai 1697, sa pièce, The Provoked Wife, dont j'avais parlé, qui eut un succès remarquable. Succès qui se maintint tout au long du XVIIIe siècle. Donc, j'ai fait passer un handout, je ne sais pas s'il est arrivé jusque-là. Elle est jouée encore régulièrement aujourd'hui. J'ai trouvé sur Internet, par exemple, elle a été jouée en juin 2014 à l'Université de York, au Department of Theatre de l'Université. J'ai trouvé le résumé, ce qu'on appelle le blab amusant. Sir John and Lady Booth have been married for 2 years, la citation 2. To him, it feels like a lifetime. To her, a life sentence. Je trouvais que c'était bien tourné. C'est exactement ça, en plus. Il manque des handouts.
Oui,
pardon. Voilà. Il y a deux pages aussi de handouts. Je vous l'ai fait à l'ancienne, hein, avec des photocopies. Donc cette pièce, un grand succès. Il a écrit quelques autres pièces ensuite qui sont moins connues. Et à partir de 1705. Encore jeune, il cesse d'écrire pour le théâtre. Il y reviendra juste un peu avant sa mort avec une pièce que finira Corley Seber, qui s'appellera The Provoked Husband, qui n'est pas le titre que Vanbrugh avait choisi. De 1696 à 1706, alors j'arrive au cœur de mon sujet, la décennie où il écrit pour le théâtre, c'est aussi la décennie au cours de laquelle il se tourne vers une autre occupation, l'architecture. Ça peut paraître un peu étonnant, il faut faire l'effort de se replonger un peu dans le climat de l'époque. Vanbrugh est une figure relativement connue, il est membre du Kit Kat Club, qui est un lieu de rencontre de la haute intelligentsia Whig, où on y côtoie, non pas comme aujourd'hui où les milieux sont beaucoup plus étanches et segmentés, on y côtoie dans ce club aussi bien des hommes de lettres comme Addison et Steele, mais aussi des éditeurs comme Thomson, mais aussi des ministres et des aristocrates importants comme Lord Montague. On vit dans l'atmosphère qui suit la Glorious Revolution de 1788, qui conduit certaines figures de l'aristocratie à fréquenter ce club. D'un point de vue historique, on pourrait dire qu'ils ont su ne pas lier leur sort à la monarchie, comme le feront les aristocrates français un siècle plus tard, et l'écroulement de l'absolutisme en Angleterre, curieusement pour un esprit français, leur donne du pouvoir à ces grands aristocrates. Donc c'est un climat où se mêlent la création littéraire, la politique, l'architecture, le journalisme, etc. Ceci ne doit pas nous étonner. Vanbrugh n'est pas un ovni en s'intéressant à des sujets différents. C'est en fait tout le terreau culturel qui le veut. Donc, en me préparant cette petite présentation, je me demandais, j'avais plus en tête la chronologie, si les deux activités de Vanbrugh, l'architecture et la littérature, avaient été consécutives ou simultanées. Et en fait, elles sont simultanées. En effet, c'est dès la fin 1699, donc un an après The Provoked Wife, que dans une lettre, il évoque des plans pour la demeure de Lord Carlisle, le futur Castle Howard. Alors, j'ai eu recours à l'expertise de Grégoire pour vous montrer deux vues de Castle Howard. Voilà. Donc, je vais parler essentiellement de deux de ces bâtiments. Hein. Donc, l'architecte, il vit dans une époque où, après le grand incendie de 1666, la reconstruction et la construction sont des préoccupations majeures. On a parlé de ça lors de la séance dite méthodologique. Par exemple, hein, rien qu'à Londres, 50 églises sont en chantier après le grand feu, le grand incendie. 50 chantiers dont Wren, l'ami de Vanbrugh, avait la responsabilité. 30 étaient encore en chantier en 1677, qui furent toutes terminées entre 1670 et 1686. Un gigantesque chantier. Et la grande figure qui domine la restauration, évoquée, si vous voulez plus de détails, dans le texte de cadrage qui est sur le carnet, Sir Christopher Wren fut l'ami intime de Van Brugh et collaborèrent à trois avec Nicolaus Hawksmoor. Comme ce séminaire, comme les conveners de ce séminaire, ils étaient trois. Bon, son premier projet, Castle Howard, dessiné et construit dans le Yorkshire à la demande de son ami Carlyle, fit appel à lui en 1700. C'est sa plus harmonieuse création. Au centre de la composition se dresse le corps de logis, relié par deux bras arrondis aux ailes plus basses, qui sont les communs, et qui se développent autour de cours secondaires. Sur le jardin, on le voit moins bien évidemment là, le jeu des façades, à l'arrière desquelles se trouve une enfilade de vastes appartements, est beaucoup moins mouvementé, beaucoup plus sage. C'est une œuvre à laquelle il travailla quand même 17 ans. Une masse vigoureuse qui projette vers le ciel ses statues et sa coupole. On est frappé par la générosité des façades, les allées, les perspectives, les jardins, les grounds. La pierre s'incorpore au paysage. Les bassins, les fontaines, les obélisques se fondent avec les frondaisons des bois. Michel Baridon, le célèbre historien des jardins, culture anglaise, dit de Castle Howard que c'est l'une des créations architecturales les plus étonnantes que l'on puisse trouver en Angleterre. Il ajoute « pays qui n'en manque pourtant pas ». L'autre château dont je vais parler, on peut le montrer, c'est le château de Blenheim. Voilà. Construit pour le duc de Marlborough, sur des terres offertes par la reine Anne en récompense de la victoire remportée par Marlborough sur les Français à Blenheim en 1704. Donc John Churchill, premier duc de Marlborough, c'est le fameux « Malbrough s'en va en guerre », « Mironton, Mironton, Mirontaine », c'est celui-là. Le premier duc de Marlborough, John Churchill. Marlborough commence en 1705, il rencontre des difficultés, non avec le duc, avec qui il s'entend bien, mais avec la duchesse, qui avait ses propres idées, et qui, bien plus tard, selon l'anecdote qu'aiment à rappeler les biographes de Marlborough, interdisit l'entrée à la jeune épouse de Marlborough en 1725, alors qu'il venait lui montrer le château qu'il avait construit. Ça ne s'est pas très bien passé. Tu as montré les deux. Voilà, une autre vue de Marlborough. Donc il n'a pas fait que ça. Je ne vais pas faire la liste complète. Il a construit notamment le Queen's Theatre dans le Haymarket, commencé en 1703, achevé en 1705. Plus rien n'en reste, pas même des plans ou dessins. Il m'aurait évidemment intéressé de pouvoir vous montrer les plans du théâtre, justement, qu'il avait construit, sorte d'interface entre ces deux activités d'architecte et de dramaturge. On sait seulement, par comparaison avec les autres théâtres, Drury Lane et Lincoln's Inn Fields, que ces dimensions étaient impressionnantes et que sa hauteur était inhabituelle, ce qui sans doute devait poser des problèmes d'acoustique. Il fit beaucoup d'autres choses, il a rénové des country houses, demeures seigneuriales, comme on dit en français, Kimbolton dans le Huntingdonshire, Claremont dans le Surrey, King's Weston dans le Gloucestershire, etc. Vanbrugh, par exemple, en véritable paysagiste, détruisit ce qui restait du vieux manoir Tudor et le reconstruisit au sommet d'une colline. Beaucoup d'autres édifices encore, la chapelle centrale de l'hôpital de Greenwich, avec Wren et Hawksmoor, des églises. Il participa aussi avec Hawksmoor à l'élaboration des plans de Clarendon Press à Oxford. Beaucoup d'autres choses plus mineures encore, sur lesquelles je passe pour synthétiser un peu. L'architecture de Vanbrugh est baroque, mais un baroque anglais, dont les trois noms, Wren, Hawksmoor et Vanbrugh, sont représentatifs, tempérés par des éléments classiques, de symétrie en gros, est assez différent du baroque continental. Nourri des principes de Vitruve, alors Vitruve, c'est un architecte romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, dont le traité De Architectura nous a transmis l'essentiel des connaissances que nous avons sur les techniques de construction antiquité classique, Vitruve. Donc Vanbrugh connaissait bien les 10 volumes du traité De Architectura, mais il était également nourri de Palladio, l'architecte le plus célèbre de la Renaissance, 1508-1580. Vanbrugh est sensible aux ensembles symétriques, il s'intéresse à la recherche de proportions harmonieuses. Il intègre néanmoins ses principes à une expression dynamique, une ampleur dramatique, une forme d'animation, des lignes mouvantes. Cet aspect dramatique, et j'emploie le terme à dessein, est typique des constructions de Van Broek, qui sont comme des développements plastiques de l'espace. Sur le handout, une longue citation que je ne vais pas lire en entier, mais Reynolds, beaucoup plus tard, lui a rendu hommage. Du coup, je n'ai plus moi-même le handout. Merci. C'est pas cette page-là. Voilà, c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Donc, Reynolds est dans un discours pour les étudiants de la Royal Academy en 1786, c'est la première citation. Il dit, voilà, je ne vais pas tout lire, « The buildings of Van Broek was a poet as well as an architect. There is a greater display of imagination than we shall find perhaps in any other. To speak of Van Broek in the language of a painter, he had originality of invention. He understood light and shadow and had great skill in composition. » Un peu plus loin, donc c'est vers la ligne 7-8-7, il écrit « What the background is in painting, in architecture, is the real ground on which the building is erected. » Pourquoi il est intéressant de citer Reynolds? Parce que la postérité immédiate de Van Broek n'a pas reconnu son talent d'architecte, il a même été plutôt moqué. Aujourd'hui, suite à ces jugements de Reynolds qui ont fait date, jugement aussi du 19e siècle, du 20e siècle, il est réhabilité en quelque sorte comme architecte. Marie-Louise Flucher, ma lointaine collègue qui était professeure à Aix et qui a pris sa retraite lors de mon arrivée, j'ai écrit son nom sur mon papier, non qu'il y ait une relation de cause à effet, en tout cas je l'espère, à cette formule, son architecture est une victoire de l'esprit sur l'indifférence indocile du monde minéral. Victoire de l'esprit. Alors sa pièce, The Provoked Wife, 1697, je résume l'argument qui tient un peu de ligne. Sir John Brute et Lady Brute sont mariés depuis 2 ans, ce mariage ne satisfait ni l'un ni l'autre. Lady Brute envisage de prendre un amant, Constant, qui la courtise depuis 2 ans, depuis son propre mariage, où il était présent. Pas de divorce possible à l'époque, ce qui est d'ailleurs un enjeu très contemporain de la pièce, puisque pour obtenir un divorce, il fallait s'adresser au Parlement, et ensuite obtenir l'assentiment royal. Le premier divorce de ce type en Angleterre a été accordé en avril 1698. Donc c'est un sujet qui préoccupait les contemporains. Donc The Provoked Wife, c'est la femme poussée à bout, l'épouse outragée, qui ne sait pas si elle doit céder à l'amant ou si elle doit supporter ce mariage. Et le mot wife dans le titre, qui n'est pas woman, indique que c'est bien la relation conjugale qui est au centre. Sur le handout, il y a le tout début de la pièce, le premier soliloque de Sir John Brute. La première phrase est célèbre. What cloying meat is love when matrimony is the source to it? 2 years of marriage has debauched my 5 senses. Mais ce n'est pas la femme qui est en cause, c'est son statut d'épouse, car à la ligne 6, on lit My lady is a young lady, a fine lady, a witty lady, a virtuous lady, and yet I hate her. Bon, si on regarde les 4 adjectifs, qui sont des qualités, elle est jeune, elle est belle, elle est intelligente, elle est vertueuse, et ça ne marche pas. Donc ce qui ne marche pas, ce n'est pas le choix du conjoint, c'est la structure conjugale elle-même que Van Broek dénonce. Lui-même se maria sur le tard, à l'âge de 55 ans, avec une Henrietta, qui avait 30 ans de moins que lui, et il dira de son mariage, paraphrasant Hobbes, qui disait que la mort était un saut dans le vide, un leap in the dark, il dira que son mariage est a great leap in the dark, ce qu'il fait dire à un de ses personnages de la pièce, le personnage de Humphrey. Alors, la structure de la pièce peut-elle nous indiquer quelque chose sur d'éventuels parallélismes, d'éventuelles similitudes avec les conceptions architecturales de Van Broek? Donc il y a un premier diagramme qui circule et puis un dessin. Je vais en garder un peut-être pour le commenter. Voilà, merci. Ça tourne. Voilà, il y a à la fois un diagramme et puis un dessin. Une vraie amie.
Non,
mais ça va, non, je ne presse pas. Donc sur le schéma qui est sur fond gris, on voit bien en fait qu'on peut représenter la pièce, je ne vais pas dire comme le château de Blanim, mais dans une structure assez symétrique. Il y a en fait deux triangles, ce qui est classique de la comédie, le triangle de l'intrigue principale, côté gauche, Sir John Brute, Lady Brute, Constant, l'amant potentiel, puis le deuxième triangle de l'intrigue secondaire, Belinda, qui est la nièce de Lady Brute, Heartfree, qui est l'amie de Constant, et Lady Fanciful, qui est une faux folle qui poursuit un peu Heartfree de ses assiduités. Chaque personnage a des extensions métonymiques de lui-même, hein, qui sont d'un côté Razor, Rake et Polly, qui sont des amis de Sir John Brute, avec qui il va dans les tavernes, etc. Et Mademoiselle est une Française qui exagère encore les caractéristiques excentriques de Lady Fanciful. Donc si on représente l'intrigue comme ça, on voit quelque chose qui n'est pas sans rappeler, forçant un peu, hein, les conceptions symétriques un peu baroques sur les côtés, avec ces personnages un peu grotesques, hein, de Vambre. Alors, le dessin a été présenté un jour dans un congrès pour... Alors, je ne dis plus du tout l'argument, il ne me reste que le dessin, pour essayer de représenter l'intrigue. L'intrigue de Vambre, avec évidemment une hypothèse de départ, qui est que c'est construit comme un palais. Alors, si on regarde bien, c'est un peu plus compliqué à décrypter, hein, je n'ai pas beaucoup de temps, mais... En très très gros, on voit bien que les fenêtres arrondies sont les scènes qui mettent en scène les deux femmes, Lady Brute et Belinda. Les fenêtres horizontales sont les scènes qui mettent en scène les deux hommes, Constant et Heartfree. Les ronds, avec une croix au milieu, Lady Brute et Constant. La porte, là où les quatre personnages sont ensemble, Lady Brute, Belinda, Constant et Heartfree. Et les piliers qui représentent Sir John Brute et ses propres extensions, ou Lady Fanciful et ses propres extensions. Et c'est vrai qu'à la lecture de la pièce, on ne peut ne pas être frappé par une certaine régularité que l'on peut matérialiser ici. Regardez par exemple les fenêtres arrondies, eh bien, elles alternent de façon systématique avec les fenêtres qui mettent en scène les deux personnages masculins. De même, les piliers. On voit les deux piliers qui associent Lady Fanciful et ses associés. Puis, au milieu, trois piliers de même nature, puis deux autres piliers. Alors, c'est assez séduisant. En même temps, ça ne marche pas très bien. Pourquoi ? Parce que l'hypothèse qui régit le dessin fait faire des choix. Par exemple... qui quand même est important dans l'architecture, ce n'est pas simplement le tracé, mais les volumes. Or, les scènes ou les actes n'ont pas la même longueur. Et donc, à partir du moment où on n'a pas respecté la longueur des scènes pour bâtir le bâtiment, on fausse un peu. C'est-à-dire que l'hypothèse de départ force le dessin. Un argument supplémentaire qui est presque cocasse, c'est le toit. C'est quoi le toit dans la pièce, hein, voilà. Mais... on sent bien que les critiques cherchent à trouver la matrice, le dénominateur commun, la structure profonde qui aurait généré d'un côté un architecte baroque, et en même temps classique, et de l'autre un dramaturge. Alors je me suis demandé, ça sera là-dessus que je continuerai, je me suis demandé si on pouvait aller dans ce sens, ou tout simplement... avec une interprétation de type historico-culturel. On a le droit de s'intéresser à plusieurs choses. Il baignait dans le Kit Kat Club. Il aimait faire des comédies, il était doué. Il aimait l'architecture. Y a-t-il forcément l'unité d'un homme, l'unité d'un esprit dans ces deux types de constructions ? Alors, quelques remarques là-dessus. D'abord, je constate que c'est le théâtre qui a donné l'occasion de s'intéresser à l'architecture. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il a été chargé de la construction de l'opéra de Haymarket, qu'il a réalisé en 1705, non pas après sa carrière de dramaturge, mais pendant. Peut-être avait-il des idées sur la façon dont le théâtre devait être construit par rapport au type de comédie qu'il voulait élaborer. Mais on n'a pas gardé, ils n'ont pas subsisté ces plans de théâtre, c'est dommage. Il a un statut un peu amateur comme architecte, hein. Il a eu beaucoup de mal à être reconnu. Il a été moqué jusqu'à ce qu'il soit réhabilité par Reynolds dans le célèbre discours est passé. Et donc, il a été cible de moquerie, par exemple, de Swift. Il n'en ratait pas une. Hein. L'indulgence n'était peut-être pas sa qualité première. Donc, voilà ce qu'il a écrit un jour de Vanbrugh. Van's genius, without thought or lecture, is hugely turned to architecture. Alors, évidemment, toute la méchanceté est dans le mot hugely. Without thought or lecture, n'est pas très gentil non plus. À sa mort, il a fait cette, quand même une épitaphe. Hein, Man of wit and of honor, a-t-il dit de Vanbrugh. Pope, l'autre grand satiriste du début du siècle, hein, il y a trois grands satiristes au XVIIIe siècle, Pope, Swift et Johnson, l'autre grand satiriste, a dit de Vanbrugh, he wrote and built just as his fancy led him. Wrote and built. Hein, il a élaboré le parallèle. Pope et Swift n'y connaissaient pas grand-chose en architecture, manifestement. Il l'appelait, Swift l'a appelé méchamment Vitruve II, Vitruvius II. Et d'ailleurs, il rapporte dans son journal à Stella, Swift, qu'il a eu une longue querelle avec Vanbrugh au sujet de ses moqueries. Hein. Vanbrugh, au bout d'un moment, a perdu un peu son humour devant les méchancetés de Swift. Il n'y connaissait pas grand-chose, et on peut dire, avec les historiens bien plus spécialistes que moi, qui n'en suis pas un, de ces sujets, loin de là, qu'il est quand même l'architecte d'une école du baroque qui dura plus d'une génération. Et même si l'admiration esthétique ne lui vint que plus tard, il est quand même un jalon de l'école anglaise d'architecture. Comme dramaturge, donc vous avez la chronologie que je vous ai distribuée, il faut se souvenir que les théâtres ont été fermés hein, par les puritains, l'ouverture en 1660. Comme dramaturge, lui, il écrit plus tard, hein, il écrit en 1697, donc 37 ans après la réouverture des théâtres. Il occupe une place intermédiaire entre la première génération de comédies de la Restauration, à partir de 1660, qui traduit une sorte d'explosion libératrice et transgressive après la fermeture des théâtres. On en rajoute, hein, c'est les pièces de Wycherley ou de Etheridge, qui sont des pièces assez crues souvent. Hein. Et donc, il occupe une place intermédiaire, disais-je, entre cette génération et ce qu'on appelle la deuxième génération, dont il fait partie, et celle de Steele qui viendra après, qu'on appelle Sentimental Comedy, ou parfois en français la comédie sérieuse, d'oxymore, qui n'en est pas un, et qui révèle un changement de paradigme assez fondamental. Je veux dire par là que la comédie telle que la conçoit Vanbrugh à la suite des dramaturges de la Restauration, elle s'appuie sur le vieil adage horacien « corriger les mœurs par le rire »,« castigat ridendo mores », c'est-à-dire on met sur la scène des vices pour les dénoncer, pour s'en moquer. Alors que la comédie sérieuse, changement de paradigme, elle mettra sur scène des comportements vertueux, ce qu'il faut imiter. C'est un peu les mêmes débats que nous avons à notre époque sur le spectacle de la violence engendre-t-il de la violence ou le spectacle de la violence est-il cathartique de la violence ? Voilà. Est-ce que parce que j'ai vu un film violent, je vais m'acheter un revolver, ou est-ce que, comme le pensaient les Grecs, le spectacle de quelque chose, cathartiquement, me délivre d'une pulsion ? Donc il est intermédiaire, et je crois qu'en fait c'est ça, sa position, en ayant réfléchi un peu à son statut d'architecte et de dramaturge. S'il y a une homologie entre les deux carrières, c'est moins dans ce type de dessin, où on chercherait à tout prix à montrer qu'il a construit le plan de la pièce comme il aurait construit un bâtiment, je n'y crois pas trop, mais on pourra en discuter si vous voulez, c'est peut-être parce qu'il occupe une position intermédiaire à la fois comme architecte et comme dramaturge. Comme architecte, il faisait, je n'ai pas eu le temps de trop le montrer, il s'efforçait d'utiliser le terrain existant, d'utiliser les ruines quand il y en avait, quitte à les déplacer. Comme dramaturge, de la même manière, il reprend un canevas un peu usé, celui de la comédie de la Restauration, qu'il développe en esquissant une veine plus subtile dans l'intrigue secondaire, puisque Belinda et Heartfree vont se marier, l'intrigue secondaire est un peu plus sentimentale, et donc il devient le maillon qui relie, dans l'histoire du théâtre anglais, Wycherley à Steele. C'est moins sans doute dans une homologie intellectuelle entre ses plans d'architecte et ses constructions d'intrigue que l'on trouve le dénominateur commun, que dans son étude intelligente de l'existant, pour en développer les formes potentielles. Au fond, Vambre prolonge, il développe, il optimise. Il optimise. Il a donné de l'esprit à tout ce qu'il a fait, sur toutes les scènes où il s'est exprimé. Et ma foi, contrairement à ce que disait Swift, cette épitaphe en vaut bien d'autres. Voilà, je vous remercie.